affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Merci de votre fidélité. Comme vous le savez, la tradition veut que lors de sa réception sous la coupole, tout nouvel académicien de l'Académie française fasse l'éloge de son prédécesseur. Notre invité de ce jour a lui fait bien mieux. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio l'écrivain Amine Malouf. Amine Malouf, bonjour.
Bonjour.
Je disais que vous avez fait mieux, car oui, dans votre dernier ouvrage, titré « Un fauteuil sur la scène », vous retracez carrément, vous, la vie des 18 académiciens qui vous ont précédé sur le fauteuil numéro 29. Et de la sorte, vous ressuscitez 4 siècles d'histoire de France et aussi d'histoire de l'Académie, bien sûr, mais les deux, nous le verrons, se confondent et se répondent. D'ailleurs... comme vous repartez bien entendu du premier occupant de ce fauteuil, on remonte naturellement aux origines de l'Académie. Et là, on découvre que l'Académie française des origines ne ressemble pas beaucoup à celle d'aujourd'hui. Qu'était-elle initialement ?
À l'origine, il y a un groupe d'amis à Paris. Ils étaient 9 ou 10 qui avaient envie de se réunir pour parler littérature, pour lire les textes des uns et des autres, et puis pour parler de choses et d'autres. Comme il était difficile de se retrouver, comme il n'y avait pas à l'époque ni téléphone, ni aucun autre moyen de communication, et qu'il fallait envoyer des coursiers les uns aux autres, quelqu'un a eu l'idée de fixer un jour et un lieu par semaine pour pouvoir se retrouver régulièrement. L'animateur du groupe était Valentin Conrat, qui avait 26 ans à l'époque, et c'est autour de lui que se rassemblait ce petit groupe. Ils s'étaient promis de ne pas en parler. Et puis un jour, l'un d'eux a laissé un écrivain de l'époque, lui a laissé entendre qu'il se réunissait, et l'autre s'appelait curiosité piquée, a demandé à venir assister à une réunion pour lire un texte qu'il avait écrit. Il est venu, il s'y est plu, il en a parlé à un autre ami qui, lui, était un proche du cardinal de Richelieu. Et évidemment, est arrivé ce qui devait arriver. Richelieu a appris la chose et il a envoyé un message à ces jeunes gens en leur disant « Mais pourquoi vous réunir à part, pourquoi vous réunir en petits groupes dans des maisons, je vous invite à vous réunir de manière tout à fait officielle, sous autorité royale et avec ma protection. » Au début, ils n'étaient pas très chauds, ils étaient bien contents comme ils étaient, ils aimaient bien leurs habitudes. Généralement, leur réunion se terminait par un banquet. Mais ils n'osaient pas dire non à Richelieu. On ne disait pas non à Richelieu. Ils ont fini par lui dire oui. Et c'était le début de l'institution officielle qui a eu des statuts et qui a augmenté le nombre de ses membres à 40. Ce n'était pas facile. À partir des 9 ou 10 d'origine, bon, disons que les 10, 15 suivants étaient assez faciles à choisir, mais après, ils ont un peu peiné. Et celui qui a été le premier à occuper le 29e fauteuil, d'ailleurs, le chiffre 29 est significatif, c'est-à-dire il est venu après les autres. Les premiers ont pris les premiers numéros. Lui ne faisait pas partie du groupe initial. Il le connaissait peu. Ils l'ont invité ou convoqué à une réunion pour le sonder un peu. Et finalement, il les a rejoints, mais un peu plus tard que le groupe initial.
Il les a rejoints en quelque sorte, comme on rejoindrait une association ou votre constitution, mi-flatté, mi-pour-rendre service.
Oui, il avait un petit problème avec ce groupe, c'est que l'un des membres du groupe lui avait joué un mauvais tour. Un jour, il l'avait rencontré, il lui avait parlé d'un livre qu'il était en train d'écrire et qui avait pour titre « L'honnête homme ». Un très beau titre, sauf que son interlocuteur a piqué le titre. Il a publié un livre avec ce titre-là et le malheureux Bardin était très embêté. Quand il a vu que l'autre, qui s'appelait Nicolas Faré, faisait partie du groupe des académiciens, il était quelque peu ennuyé. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et il a décidé de les rejoindre. Et il a été actif au sein de la compagnie, mais pendant un temps très bref, parce qu'il est mort assez vite. Il a été d'ailleurs le premier immortel à mourir. Il se noyait dans la Seine au bout de quelques mois, en essayant de sauver son pupille, qui se noyait. Il s'est jeté pour le sauver. Son pupille a été sauvé, mais lui-même s'est noyé.
Oui, c'était chevaleresque de sa part. Alors, vous, c'est ainsi d'ailleurs que vous le présentez, car chacun des 18 chapitres présentant les 18 occupants du fauteuil 29 sont présentés d'une phrase lapidaire. Je ne résiste pas au plaisir de signifier qu'ici, c'est Pierre Bardin, bon, il n'est pas nommé, celui qui s'est noyé en voulant sauver son pupille. Il n'a pas laissé d'autres traces dans l'histoire que cet événement.
Dans son cas, c'est peut-être la chose la plus notable. Son œuvre n'a pas survécu. Ses ouvrages étaient essentiellement à caractère moralisant. C'était très apprécié à cette époque-là. Mais
ça aujourd'hui, traverse mal le temps.
Voilà, aujourd'hui, on ne les lit plus du tout. Il a écrit un ouvrage qui s'appelait Le Lycée, qui est en fait le même ouvrage qu'il voulait appeler L'honnête homme, mais comme le titre était déjà pris, il l'a appelé Le Lycée. Je l'ai lu, c'est intéressant, mais bon, il porte la marque de son époque.
Avec la protection de Richelieu, j'imagine que les affaires sérieuses commencent. On part d'une bande d'amis, on arrive à une institution prestigieuse, un lieu de pouvoir qui s'interpénètre avec la cour. La cour, c'est pas rien à cette époque-là. Est-ce que l'ambiance change aussitôt?
C'est-à-dire, Richelieu était très respectueux des membres de l'Académie. C'est vrai qu'il a été le fondateur et en même temps, il voulait leur donner une forme d'autonomie, de respect. Une fois, ils ont choisi quelqu'un qui lui déplaisait beaucoup, en fait, que lui-même accusait d'avoir été coupable de malversation, de choses comme ça. Il était assez mécontent qu'il ait été choisi. Alors, ils sont allés le voir, lui ont dit, bon, si vous pensez que c'est vraiment une très mauvaise joie, on peut revenir dessus. Il a dit, non, vous êtes une institution maintenant, vous avez fait votre choix, je ne l'approuve pas, mais pour une autre fois, posez-moi la question avant de choisir. Donc, c'était quand même significatif qu'il leur ait demandé de ne pas revenir sur leur choix, pour leur assurer un certain respect, une certaine considération.
Donc, ça se passait plutôt sous la forme de conseils, d'incitations
Beaucoup de courtoisie. Il s'intéressait de près à l'Académie. En même temps, il l'influençait, mais il voulait qu'elle ait son existence propre. Un de ses travers, si l'on peut dire, c'est qu'il détestait Corneille. Certains disent qu'il le jalousait parce que Richelieu aimait écrire. Il avait peut-être quelques ambitions littéraires et il était quelque peu jaloux, dit-on, du succès énorme de Corneille à l'époque. Ce qui fait que les académiciens n'osaient pas élire Corneille, sachant que cela offenserait ou chagrinerait leur protecteur.
Tant et si bien.
Et quand il est mort, ils se sont réunis assez vite en disant maintenant ça suffit, il faut élire Corneille. Sauf que certains d'entre eux ont dit, mais attendez, ce n'est pas à la première élection après la mort du cardinal que nous allons élire quelqu'un que nous n'aurions pas élu de son vivant. Attendons un peu. Effectivement, ils ont attendu un peu. Et au lieu d'élire Corneille, ils ont élu quelqu'un qui était un protégé de leur nouveau protecteur, qui était le chancelier Séguier, qui à l'époque était une figure considérable. C'était le plus grand fonctionnaire du royaume. C'est Séguier qui avait demandé de ne pas élire tout de suite Corneille par égard pour Richelieu. Ils ont élu un jeune avocat, mais vraiment très jeune avocat bordelais, de 23 ans, qui tournait autour de la résidence de Séguier, dont le père était déjà un protégé de Séguier. Le chancelier a dit aux académiciens que c'était un jeune homme brillant, qu'il avait un avenir extraordinaire. Ils ont dû se dire qu'il faisait montre d'anticipation, que ça allait être un génie. Malheureusement, ce n'était pas le cas. En réalité, il n'a plus écrit grand-chose. Et puis, il a disparu assez vite, probablement à cause de la fronde qui rendait la vie à Paris beaucoup plus compliquée. Il est rentré chez lui à Bordeaux et il est resté là-bas pendant 25 ans. Donc l'Académie ne l'a plus jamais revu.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, à l'époque, les moyens de transport ne sont pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Et que donc, il est nécessaire de vivre à Paris pour être présent en séance.
Absolument. L'ironie, c'est que pour ne pas élire Corneille, on a pris prétexte du fait qu'il était à Rouen et que c'était trop compliqué d'élire quelqu'un qui vivait à Rouen.
Et ensuite, on prend un bordelais.
Et puis, on a pris quelqu'un qui était censé vivre à Paris et qui est parti immédiatement s'installer à Bordeaux.
Alors à propos de celui qu'on a élu ou préféré à Corneille, vous précisez que le philosophe d'Alembert dira que ce jour-là, on a prostitué le titre d'académicien, ce qui est une rare virulence. Toutefois, lorsque vous faites le portrait de cette personne, François-Henri Salomon de Virlade, vous n'êtes pas aussi sévère. Il n'apparaît pas comme un méchant homme.
Non, c'est simplement quelqu'un à qui l'on a donné une fonction qui n'était pas encore prêt à assumer. C'était effectivement un jeune homme brillant. Il a fait des études chez les pères jésuites à Bordeaux. Il est un élève brillant. Il était à la tête de classe pendant tout le temps. Il est monté à Paris. Il est devenu avocat, je crois, à 18 ans. Il plaidait brillamment. Donc, c'est quelqu'un qui semblait prometteur. Sauf que quand il a été élu, on a attendu qu'il fasse des œuvres, il n'a rien fait. Semble-t-il, il ne connaissait pas bien le français, parce que les seuls textes qu'il ait publiés après son élection, il n'y en a pas beaucoup, mais il a publié quelques textes qui étaient en latin. Et il semble que sa maîtrise de la langue française écrite n'était pas très bonne, ce qui était également le cas de son prédécesseur, qui s'appelait le chanoine Nicolas Bourbon.
Ça sont des querelles plus sérieuses entre les latinistes, les tenants du français et ceux du latin.
Effectivement, à l'époque, quand on parlait de la défense et l'illustration de la langue française, il y avait un sous-entendu qui aujourd'hui est un peu oublié parce qu'on n'en est plus là. Le sous-entendu, c'est qu'il fallait que la langue française devienne la langue par laquelle on s'exprime, par laquelle on accède aux sciences, aux lettres, à toutes les connaissances. Il y a eu un mouvement qui a commencé d'ailleurs avec François Ier. Quand il a créé le Collège Royal qui allait devenir le Collège de France, c'était pour mettre en avant et la langue française et l'enseignement de tout ce qui n'était pas théologie, en réalité. Et l'Académie française, aujourd'hui, évidemment, l'Académie veut protéger le latin, qui est un vénérable ancêtre très fatigué.
Il n'est plus menaçant.
Qui est très menacé et plus du tout menaçant. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, on voulait quand même affirmer la primauté du français. Ce n'était pas facile. Et le deuxième occupant du fauteuil, celui qui a succédé à Bardin, s'appelait le chanoine Nicolas Bourbon. Et lui avait une très mauvaise maîtrise de la langue française. D'ailleurs, tout ce qu'il a écrit, notamment des poèmes de grande qualité étaient en latin. Et il avait même des propos assez sévères contre ceux qui écrivent en français et ceux qui écrivent de la poésie en langue française. Donc cet aspect des choses était très présent au tout début de l'Académie, donc au cours du XVIIe siècle pratiquement.
Oui, d'ailleurs, vous citez un chroniqueur de l'époque qui moque donc Nicolas Bourbon en ces mots: Bourbonus, père de l'oratoire, qui ne savait que du latin et qu'on fit membre de l'Académie française à cause de ses vers latins.
Oui, absolument.
Voilà. Dont on a saisi la mordante ironie en replaçant dans le contexte.
Après Nicolas Bourbon, on a élu Salomon de Virlade plutôt que Corneille. Et à la mort de Salomon de Virlade, là, on a autre chose. Là, il n'est plus question de conflit entre les latinistes et la langue française. On a élu un homme qui apparaissait à l'époque comme un très grand écrivain. Il s'appelait Philippe Quinault. On le considérait à l'époque comme l'égal de Corneille, de Molière, de Racine. La postérité ne le classe plus du tout à ce niveau, mais de son temps, on le considérait comme un très grand. Quinault était connu, surtout dans la deuxième partie de sa vie, comme le librettiste, en réalité le premier librettiste français, le librettiste de Lully.
Ce qui n'est pas rien quand même.
Ce qui n'est pas rien. Il a fait beaucoup d'œuvres avec Lully. Il s'entendait bien avec lui, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres, y compris Molière qui a travaillé un peu avec Lully, mais qui s'entendait assez mal avec lui. Le roi les favorisait. Ils se sont même enrichis, et l'un et l'autre, et Quinault et Lully. Mais leur art, l'art de Quinault était considéré comme un art mineur, parce que c'est un art qui se pliait un peu à la musique. Et des gens comme Boileau, La Fontaine et d'autres n'avaient pas une grande estime pour l'art de Quinault.
Et non seulement parce que, si je comprends bien, il faisait des sortes de pièces un peu pastorales, joyeuses, et dans le regard d'un moraliste presque immoral, trop leste.
En fait, il y a les deux choses. D'un côté, on estimait qu'il était que c'était un peu léger au sens de comme qualité littéraire, on trouvait que c'était un peu facile. Et d'un autre côté, effectivement, des gens comme Bossuet et d'autres considéraient que les leçons des poèmes chantés de Quinault étaient scandaleuses. Louis XIV était content d'écouter ce genre de chansons, mais beaucoup de gens considéraient que Quinault diffusait une sorte d'attitude licencieuse qui n'était pas de leur goût. Le problème de Quinault, c'est que lui aussi était sensible à cela. C'est-à-dire qu'il se sentait un peu coupable d'écrire des choses un peu lestes.
Il s'est laissé prendre au serment qu'on lui faisait.
Et il a passé la dernière partie de sa vie à se repentir d'avoir écrit des choses lestes. Évidemment, quand on les lit aujourd'hui, il n'y a rien qui nous choque, mais à l'époque, c'était...
Oui, mais d'ailleurs, peut-être qu'on peut lire quelques passages.
Si vous voulez, oui.
Parce que c'est assez amusant de voir l'étendue de l'évolution de nos mœurs, car les choses qu'on pouvait lui reprocher, c'était notamment dans Attis, qui doit être une pièce musicale.
Oui.
Ce n'est pas être sage que d'être sage plus qu'il ne faut. Voilà. Scandale. Dans Cadmus et Hermione, qui peut être contre l'amour quand il s'accorde avec la gloire, ou encore dans Astrate, non, non, Seigneur, l'amour doit, quand il est extrême, tout séduire et tout vaincre, excepté l'amour même.
Vous imaginez que quelqu'un
scandale
comme
à part royal.
Quelqu'un comme Louis XIV n'était pas mécontent d'entendre ça. Ça semblait une justification de son comportement. Mais
c'est en deçà de son comportement, si
mais,
je peux
voilà, en, bien en deçà. Mais l'aumônier du palais n'était pas content d'entendre ça. Ça apparaissait comme un encouragement au vice.
Oui, il y a la licence. Est-ce que ce type de débat va se poursuivre ensuite ou... Quels sont les autres développements culturels de la sensibilité, mais aussi des débats que l'on perçoit à travers les occupants du fauteuil?
En fait, l'épisode Quinault, donc Quinault est le quatrième occupant du fauteuil, son épisode se termine de manière tragique, puisque son complice Lully meurt en se blessant lui-même avec un bâton de maestro qu'il utilisait généralement pour donner le rythme, pour donner des directives à sa troupe. Et il se blesse, et ça s'infecte, et il meurt à cause de ça. Et Quinault voit dans la mort de Lully une sorte de châtiment du ciel, et il en est terrorisé, et il meurt peu de temps après, lui-même. Tout le monde le décrit comme un vieil homme complètement usé, alors qu'il n'a que 53 ans à l'époque. Après lui vient quelqu'un de complètement différent, qui s'appelle François de Calière. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux sont à Versailles à l'époque. L'un est un amuseur à Versailles, puisqu'il s'occupe des spectacles. L'autre travaille au cabinet du roi. Il est l'un des nombreux secrétaires de Louis XIV. Il le sert avec beaucoup de soumission. Il apparaît comme étant même quelque peu flagorneur. Sauf que, en sous-main, il prépare un ouvrage qui prend le contre-pied de la politique de Louis XIV. Ouvrage qu'il n'ose évidemment pas publier du vivant du roi, même s'il est terminé depuis 20 ans. Il attend. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Quelques mois plus tard, François de Calière publie De la manière de négocier avec les souverains, qui condamne toute l'attitude qui consiste à mener des guerres sans arrêt, parce que c'est ce que faisait Louis XIV, qui dit que l'objectif d'un dirigeant responsable, d'un souverain, c'est de poursuivre la paix et de chercher des moyens d'assurer la paix. Un ouvrage remarquable. Je dirais que de tous les ouvrages des auteurs de cette époque, c'est celui qui, à mes yeux, mérite d'être véritablement redécouvert. C'est un ouvrage il y a une vision extraordinaire, par exemple, de l'Europe, qui est d'une grande modernité. En plus, c'est un ouvrage amusant à lire. Donc vraiment, j'encourage beaucoup ceux qui pourraient se le procurer. Il s'appelle donc De la manière de négocier avec les souverains. C'est un plaisir de lecture. Et je pense que c'est cela qui restera de François de Calière.
Puisque vous en faites l'éloge, peut-être que je peux en lire un court extrait, issu bien entendu de votre propre ouvrage. Donc c'est un extrait de l'ouvrage de François Caillère. « Contrairement à l'opinion vulgaire, on ne doit jamais fonder le succès de ces négociations sur de fausses promesses et sur des manquements de foi. Un négociateur doit considérer qu'il aura plus d'une affaire à traiter dans le cours de sa vie, qu'il est de son intérêt d'établir sa réputation et qu'il doit la regarder comme un bien réel puisqu'elle lui facilite dans la suite le succès de ses autres négociations. De fait, c'est la sagesse même, ce n'est pas toujours probablement l'usage de l'époque, mais ni même celui d'aujourd'hui. Il faut effectivement inciter à le relire dans toutes les sphères. »
Mais c'est effectivement un ouvrage passionnant. Moi, je l'ai lu avec grand plaisir.
Et de temps à autre, quand même, des observations plus cocasses.
Oui.
Comme celle-ci. Un bon buveur réussit quelquefois mieux qu'un homme sobre à traiter avec les ministres des pays du Nord, pourvu qu'il sache boire sans perdre la raison et en la faisant perdre aux autres.
Il y a aussi un passage à propos de la manière d'utiliser les relations galantes dans les négociations.
Bon, là, je résiste pas au plaisir de le lire aussi. Alors, c'est sur la même page, je l'ai sous les yeux. C'est vrai que c'est charmant. Voici donc ce qu'il dit à ce sujet. Si l'usage du pays où il se trouve lui donne un libre commerce avec les dames, le négociateur ne doit pas négliger de les rendre favorables en s'attachant à leur plaire et à se rendre digne de leur estime. Le pouvoir de leur charme s'étend souvent jusqu'à contribuer aux résolutions les plus importantes d'où dépendent les plus grands événements. Mais en réussissant à leur plaire par sa magnificence, par sa politesse et même par sa galanterie, qu'il n'engage pas son cœur, il doit se souvenir que l'amour est d'ordinaire accompagné de l'indiscrétion et de l'imprudence, et que dès qu'il se laisse assujettir aux volontés d'une belle femme, quelque sage qu'il soit, il court le risque d'être plus maître de son secret. Voilà qui vaut bien au-delà de la diplomatie.
Et d'ailleurs, il faut bien de le remarquer, parce que le terme de diplomatie que nous utilisons aujourd'hui n'existait pas à cette époque. Ça, je l'ai découvert en faisant mes recherches sur ce livre. Le mot de diplomatie apparaît uniquement à la fin du XVIIIe siècle. Jusque-là, on disait toujours négociateur.
Cela dit, pourquoi pas, terme de négociation.
Je trouve que c'est un mot plus subtil que celui de diplomate.
Et il y a une petite touche d'humilité.
Oui, et puis on peut négocier toutes sortes de choses. On peut négocier un contrat, on peut négocier un mariage, on peut négocier un divorce, on peut négocier une réconciliation, alors que la diplomatie, c'est un peu plus strict.
Alors, ce qui est frappant aussi, on va le voir avec le personnage suivant, c'est que sur ce siège, on s'attend à trouver essentiellement, c'est ce qui est associé à l'Académie française, des hommes de lettres, des écrivains, il y en a, on l'a vu, mais il y a aussi beaucoup d'hommes de pouvoir.
Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui venaient de disciplines diverses, de milieux divers. On trouve effectivement sur ce fauteuil des écrivains, mais également des responsables politiques, des ecclésiastiques, des savants. Et je pense que ça a toujours été le cas à l'Académie française, avec des dosages différents. C'est-à-dire, il y a eu une période où il y avait beaucoup d'aristocrates, beaucoup de militaires. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de prélats. Il y a eu l'âge d'or des philosophes, puis des savants. Je dirais que peu à peu, la chose s'est un peu éparpillée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on trouve des représentants d'à peu près toutes ces catégories, mais en petit nombre.
Oui, ici, on sent bien les vagues successives. Enfin, c'est un miroir de la société. Quand les prélats laissent la place aux philosophes, notamment ceux de la loge des Neuf Sœurs, c'est ça ? On sent que le monde est en train de changer.
Effectivement. ça, au début, donc, après Callière, après François de Callière, qui était un conseiller de Louis XIV, arrive un homme qui est le cardinal de Fleury, qui, lui, n'est pas simplement secrétaire d'un roi, il est véritablement le mentor d'un roi. Louis XV avait 2 ans quand il est devenu dauphin, il avait 5 ans quand il est devenu roi, et il avait perdu toute sa famille. Fleury a été pour lui le père, la mère, le conseiller, le guide, le précepteur, tout. Il a constamment eu confiance en Fleury. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la mort de Fleury, il n'avait confiance en réalité qu'en lui. Et Fleury était gouverné la France en réalité. Jusqu'à sa mort, à 90 ans, c'est lui qui gouvernait le pays.
Avec un certain talent d'ailleurs.
Avec beaucoup de talent. Et d'ailleurs, quand Fleury est mort, on peut dire que Louis XV, le règne de Louis XV s'est un peu égaré dans les marécages et il n'a plus jamais retrouvé le lustre qu'il avait du vivant de Fleury.
Et puis, pour le jugement de l'histoire, on a Louis XIV, la flamboyance belliqueuse, la cour, toute chose bien brillante. Ensuite, Louis XVI, c'est autre chose. Il est un peu coincé quand même entre deux acmés de l'histoire de France. Est-ce que c'est pas sa modestie même et sa prudence dans la gouvernance, comme on dirait aujourd'hui, qui fait qu'il est un petit peu oublié?
Vous savez, Louis XIV, l'histoire en a fait le grand souverain. C'était effectivement un grand souverain. Et aussi du point de vue du développement des arts et des lettres, c'était certainement un grand règne. En même temps, c'était un règne ruineux. De son vivant, les choses se passaient à peu près correctement, mais les gens souffraient. Et à sa mort, il y a eu des manifestations de joie dans certaines régions, dans certains quartiers, parce que les gens en avaient assez. Et le règne de Louis XV a commencé durant sa minorité, donc il y a eu la régence, et là il y a eu toutes sortes de crises, la crise de la banqueroute, de l'as, comme on l'appelle, et tout cela pourquoi ? Parce que le pays était très endetté, et donc il fallait trouver une solution financière, on a trouvé de mauvaises solutions, et Fleury, le grand mérite de Fleury, c'est qu'il a rétabli les finances du pays, sauf qu'il a dû le faire en limitant certaines dépenses, en renonçant à certains engagements outre-mer. Donc, beaucoup de gens trouvaient qu'il avait un règne un peu mesquin, un peu réducteur, mais parce qu'il fallait, guérir le pays tout ce qu'il y a eu pendant le grand siècle. Puis on arrive à la Révolution. Oui. À la Révolution... celui qui occupe le fauteuil, c'est un certain Florian, complètement oublié par ailleurs, un poète délicat. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand écrivain. Ce n'est pas un grand écrivain. C'est un fabuliste. On a dit qu'il était le meilleur fabuliste après La Fontaine. Je pense que c'est un peu trompeur. Il est vraiment très loin de La Fontaine. Il est dans une autre catégorie. Il a quelques vers délicats de temps à autre. C'est lui, par exemple, qui a écrit les paroles de la chanson « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment ». Il a écrit un poème qui a été mis en musique du vivant de Florian. Et c'est devenu, entre guillemets, un tube à cette époque-là. Donc c'est une chanson qui est très ancienne et qu'on continue à écouter aujourd'hui. Il y a quelques phrases comme ça qui restent de ces fables. Il écrivait aussi comme ça des petits romans assez délicats, un peu à l'eau de rose, mais bon. C'était un brave homme qui avait la particularité d'être le petit-neveu de Voltaire par ricochet. L'expression est de Voltaire même. En fait... Florian a perdu ses parents très tôt. Il a été élevé par un oncle qui avait épousé une nièce de Voltaire. Et donc, lui était, de ce fait, de la famille de Voltaire. Et Voltaire disait que c'était son petit-neveu par ricochet. C'est lui qui l'a encouragé à écrire. C'est lui qui lui a fait découvrir les fables de La Fontaine. C'était un brave homme, Florian. Il a été élu à l'Académie, pas tellement pour ses propres qualités, mais parce que Voltaire était à l'époque déjà devenu une sorte de divinité, et toute personne qui avait un lien avec lui avait un avantage. Donc il a été élu pour la mémoire de Voltaire.
Et puis, si je ne me trompe pas, en plus, lors de l'élection d'avant, on avait... préféré à...
Tout à fait. Lors de l'élection d'avance, après la mort du cardinal Fleury, Voltaire était candidat.
Il n'a pas été élu.
Et Louis XV n'a pas voulu de lui. Il a dit, vous imaginez Voltaire faisant l'éloge du cardinal Fleury, les gens vont sourire. Et donc, il a dit non. Et puis, Madame de Pompadour est intervenue, mais pas à cette élection-là, une élection suivante. Elle lui a dit, il faut absolument que Voltaire soit élu, et il a donné son accord pour que Voltaire soit élu. Il a été élu à l'unanimité à ce moment-là.
Mais un autre fauteuil, du coup.
Un autre fauteuil, hélas.
Oui, sinon, on l'aurait dans le livre.
et Florian, au moment de la Révolution, alors que c'était un brave homme qui était quand même proche des philosophes, il est jeté en prison, sous la Terreur, et il était à deux points d'être guillotiné. Il sort de prison très fatigué, usé, Probablement qu'il était malade et qu'il a été évidemment mal soigné en prison. Et il meurt peu de temps. Il sort au moment de Thermidor. Et il meurt quelques semaines plus tard. Il n'a pas encore 40 ans. Et à l'époque, l'Académie avait été abolie. Et donc, il n'a pas de successeur dans les médias. Et pendant des années, il n'y aura pas d'occupant, il n'y aura pas de 29e fauteuil, ni d'autres fauteuils, jusqu'au moment où le directoire commence à dire que quand même, le pays a besoin d'une académie des sciences, d'une académie des lettres, et peu à peu, on reconstitue les académies, et Napoléon prend la décision décisive de recréer un institut de France qui s'installe dans les locaux actuels, quai de Conti. Ça date de 1805.
C'est d'ailleurs assez étonnant, cette dissolution de l'Académie, car certes, elle a une généalogie royale, hein, nous l'avons vu, mais au moment où elle est dissoute dans ce tourment, il y a quand même une énorme présence quand même des philosophes ou des gens attachés aux Lumières en son sein, non ?
Tout à fait. Je pense que...
C'est comme un contresens.
Il y a un mouvement, une sorte de raz-de-marée. On a envie de démolir tout ce qui pouvait représenter le passé. Et on ne s'embarrasse pas de savoir quelle était l'attitude des uns et des autres. Quand on imagine que quelqu'un comme Condorcet a été jeté en prison, qu'il a failli être guillotiné et qu'il s'en est tiré, si l'on peut dire simplement, parce qu'il se suicide avant son exécution. Je pense qu'il y a... À un moment donné, il y a des mouvements de foule qui deviennent incontrôlables. Les gens réagissent au premier degré. On démolit des églises, des monastères. On déterre des dépouilles, pas seulement des dépouilles royales. On a déterré tout ce qui était enterré dans des lieux un peu représentatifs. C'était un moment de déchaînement, de folie. Qui a duré une petite dizaine d'années, non, un peu moins. Et puis, les choses ont repris leur cours. En ce qui concerne le 29e fauteuil, il y a eu un personnage pas particulièrement sympathique, qui s'appelait Jean-François Caillava, qui était un peu étrange, qui se promenait avec une dent de Molière enchâssée dans une bague, ce qui n'est pas du meilleur goût.
Surtout qu'il avait prélevé sur la...
Oui, parce que sous la Révolution, on avait déterré la dépouille de Molière. Et lui, qui avait une véritable dévotion pour Molière, a jugé bon de prélever une dent comme signe d'adoration pour Molière.
Une relique, quoi.
Voilà, c'est une relique, quand même, une relique de saint. Mais bon, c'est d'un goût douteux, pour le moins. Et ses adversaires disaient que Molière avait une dent contre lui, ce qui était bien trouvé. Et donc Caillava est là, il assure un peu la transition entre l'académie d'avant et l'académie d'après. Il a étrangement joué ce rôle de transmission, puisque le jour de sa mort, il demande à être enterré près de Florian, qui était son prédécesseur sur ce fauteuil, ce qui est assez étonnant. Et il est enterré tout près de Florian. Et d'une certaine manière, il assure une continuité aux occupants de ce fauteuil. Il avait une autre particularité, Caillava. En 1778, Voltaire a été reçu dans une loge maçonnique qui s'appelait la Loge des Neuf Sœurs. Et celui qui a été chargé par la loge d'initier Voltaire était un certain Caillava, avec un petit groupe d'autres personnes, mais lui a joué un rôle important. Et Florian, après l'initiation de Voltaire, a voulu être lui aussi initié dans cette loge qui a joué un rôle très important à cette période-là, entre les années 1770 et la Révolution. Et donc, on a assisté avec trois académiciens successifs à une présence de cette loge qui a connu une existence fulgurante, avec des figures évidemment comme Voltaire ou Benjamin Franklin ou d'autres, et qui a après disparu complètement après la Révolution. Après Kayava, arrive un personnage tout à fait étonnant. En tout cas, pour moi, c'est un personnage important parce que les hasards de la vie ont fait que je me suis intéressé à lui il y a très longtemps, il y a 35 ans. Un historien qui s'appelait Joseph Michaud. C'est un historien des croisades. Et moi, mon tout premier livre, il y a plus de 30 ans, était un livre sur les croisades. Et quand j'avais commencé à y travailler, je cherchais des ouvrages qui pouvaient être des sources intéressantes pour moi. J'écumais toutes les librairies de Paris et j'avais trouvé dans une librairie orientaliste, rue Monsieur le Prince, la librairie Samuelian, un ouvrage d'un certain Michaud, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, en 7 volumes, une histoire des croisades. Et c'était passionnant, ça a été une des sources les plus importantes pour ma recherche. Et quand j'ai été élu beaucoup plus tard à l'Académie, et que je regardais la liste des prédécesseurs, j'ai vu que Joseph Michaud faisait partie de ses prédécesseurs.
Et, si j'ai bien compris, c'est parce que vous n'avez pas pu le citer dans votre discours ce livre si aîné.
C'est tout à fait vrai, parce que quand j'ai fait mon discours, je devais évidemment faire l'éloge de mon prédécesseur, ce dont j'étais ravi, parce que c'est Lévi-Strauss et que j'avais une grande admiration pour lui. Je devais aussi citer quelqu'un que nous mentionnerons peut-être, qui est Ernest Renan, qui a un rapport avec le Liban, donc il fallait que je le mentionne à un moment donné dans mon discours. Et j'avais envie de citer Joseph Michaud, mais je ne pouvais pas mentionner trop de personnages.
Sinon le livre aurait déjà été écrit.
Je me suis dit, un jour je consacrerai une petite étude à Michaud. Et quand j'ai essayé de lire des choses sur la vie de Michaud, j'ai découvert que cet homme que je prenais pour un érudit qui a passé sa vie à étudier les croisades n'était pas tout à fait ça, puisque pendant la première partie de sa vie, c'était un tourbillon, un aventurier avec une vie rocambolesque, qu'il a été jeté en prison 11 fois, qu'il a été 2 fois condamné à mort. Et une des fois où il a été emprisonné, c'était au Collège des Quatre Nations. Parce que le Collège des Quatre Nations,
qui avait été fondé
par Mazarin, au moment de la Révolution, a été transformé en prison, pendant peu de temps, pendant quelques années. Et c'est dans cette prison que Michaud a été enfermé. Et tous les jours, on l'emmenait d'ici, puisque nous sommes exactement à cet endroit, on l'emmenait d'ici jusqu'aux Tuileries. Et aux Tuileries, il y avait le tribunal qui devait le juger. Et un jour, sur le chemin qui mène aux Tuileries, il rencontre un ami assez malin qui détourne l'attention des gendarmes et qui lui permet de s'échapper. Et donc, Michaud s'échappe et le lendemain, il est guillotiné en place de grève, mais en effigie seulement.
Ce qui est extraordinaire, ça, je veux dire, j'ignorais que ça se faisait. Guillotiné en effigie. Oui. On poursuit de la hargne.
Et quelques années plus tard, il reviendra au Collège des Quatre Nations, mais en tant qu'académicien.
Ce personnage de Michaud, lui, donc, épouse aussi toutes les querelles institutionnelles de l'époque, puisque si j'ai bien compris, il est républicain, mais ensuite il devient plutôt un agitateur royaliste.
En fait, je pense qu'il était pour l'essentiel royaliste. Il a eu un petit moment où il a pu se rapprocher des idéaux républicains. On a un poème de lui qui le donne à penser. Mais dans l'ensemble, sa carrière s'est plutôt passée dans le camp royaliste.
Je me trompe peut-être, mais il me semblait découvrir dans d'autres pages de livre qu'il était également présent lors de l'initiation de Voltaire, ou c'est du conditionnel?
Oui,
l'initiation de Voltaire à la loge des Neuf Sœurs.
Je n'ai pas de réponse à ce mystère, mais à un moment donné, il y a une cérémonie maçonnique en l'honneur de Benjamin Franklin, qui était une grande figure aux États-Unis et qui était une grande figure du mouvement maçonnique. Et il y a un poème qui est déclamé pendant cette réunion organisée par la loge des Neuf Sœurs. Et qui a composé ce poème et qui le déclame ? Joseph Michaud. Donc, pendant une période, il était proche de la loge des Neuf Sœurs, mais ça n'a pas duré. Je pense qu'il a été, pendant quelques années pendant sa jeunesse, proche de cette orientation, puis il s'en est éloigné. Je pense que... Je n'ai pas véritablement de réponse, mais il en a certainement été proche pendant une courte période.
On précise aussi que la loge des Neuf Sœurs était loin d'être désenragée. Hein.
Ah non, ouais. il y avait des gens... Les Neuf Sœurs, d'abord, c'est les neuf muses de l'Antiquité grecque. Et c'est une loge qui était destinée justement à rassembler des gens du monde de la culture. Donc il y avait des inventeurs... Des savants, des écrivains, beaucoup d'académiciens. Et ça a été la loge la plus prestigieuse de la franc-maçonnerie française pendant quelques décennies. Puis elle a complètement disparu.
Le personnage qui fit Pierre Flourens est également intéressant à plus d'un titre. D'une part, parce que lui aussi, il est célèbre par le fait qu'il était élu contre un personnage pour le moins célèbre, puisqu'il s'agit de Victor Hugo.
Effectivement. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Il a été élu contre Victor Hugo. C'était très serré, d'ailleurs. Il a fallu plusieurs tours, et ça s'est joué à très peu de voix. Flourens était un savant très connu. Il était le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Et en réalité, les adversaires de Victor Hugo, ne voulant pas lui opposer un écrivain, parce que ça n'aurait pas pu...
fonctionner.
Voilà, parce que c'était pas crédible de venir opposer un écrivain à une figure comme Hugo, lui ont opposé un savant tout à fait respectable. Et c'était assez astucieux, et Flourens a fini par être élu. C'était un homme tout à fait honorable. Il était un des propagateurs de l'anesthésie. C'était un chercheur de très haut niveau. On peut dire que c'était un homme à tous égards honorable. Il a écrit des choses remarquables. Mais le fait d'avoir été élu contre Hugo l'a poursuivi même dans la postérité.
Alors son élection a été critiquée sur le fait aussi que l'Académie française aurait dû être uniquement un cénacle d'hommes de lettres et qu'un homme de science n'avait rien à y faire.
Il y a eu un déchaînement dans une certaine presse à l'époque en disant mais l'Académie française n'est pas faite pour les éprouvettes, etc. En réalité, la réponse de Flourens lors de son discours de l'espion a été remarquable. Je ne sais pas si vous avez quelques passages ici.
Volontiers. Voilà. Voici donc cette réponse. Messieurs, l'union des lettres et des sciences commence dans notre patrie avec la langue elle-même. Descartes crée tout à la fois au XVIIe siècle une géométrie, une philosophie, une langue nouvelle. Dans le XVIIIe, Fontenelle fait parler aux sciences la langue commune. Buffon leur fait parler celle de l'éloquence. La langue de Voltaire donne des ailes à la renommée de Newton. Un esprit philosophique nouveau né des sciences, cet esprit, supérieur aux sciences mêmes, n'est-il pas, messieurs, un des caractères les plus marqués de nos temps modernes ? N'a-t-il pas influé sur tout ? Sur la philosophie ? On l'a déjà vu, c'est un géomètre qui a fondé la philosophie nouvelle. Sur la langue, c'est ce même géomètre qui a écrit le discours de la méthode, c'est-à-dire le premier ouvrage où notre langue a pris sa nouvelle forme. Et cette nouvelle forme, celui qui l'a portée tout à coup à un degré si étonnant d'élévation et de perfection, est encore un géomètre, c'est l'auteur des lettres provinciales, c'est Pascal. Sur l'histoire, enfin, un écrivain philosophe du dernier siècle, David Hume, voulait qu'elle se soumît à la méthode des sciences. Et c'est parce qu'elle s'y est soumise, parce qu'elle s'est attachée au fait que l'histoire a pris de nos jours un nouvel essor, une vérité qui n'a pas besoin de preuves, sans doute, mais qui trouverait une preuve frappante dans l'ouvrage le plus important de l'académicien célèbre dont je dois parler aujourd'hui. Et il poursuit bien sûr par l'éloge de Michaud.
Mais c'est remarquable comme présentation, Et c'est imparable, c'est-à-dire il montre clairement que la science a parfaitement sa place dans une assemblée dédiée à la langue, à la culture. Et donc je trouve que l'élection de Florence, même si le fait qu'on ait retardé l'élection de Victor Hugo était triste, mais l'élection de Florence se justifie, ne serait-ce que par ce discours qui est remarquable.
Oui, elle démontre combien l'Académie, effectivement, est un lieu qui épouse, digère, donne du rayonnement et s'imprègne des idées de son temps.
Absolument. Et la le 19e suite le démontrera. Et le 19e siècle sera un siècle de sciences, c'est-à-dire de sciences exactes et de sciences humaines envisagées sous un angle de rigueur scientifique. Donc ça commence avec Michaud, qui a donné une dimension scientifique à l'étude de l'histoire, puis Flourens, puis ça atteint un sommet avec Claude Bernard, qui est en quelque sorte l'inventeur de la médecine scientifique, expérimentale, puis Ernest Renan, qui lui aussi, dans son domaine, introduit un regard scientifique. Donc tout au long du 19e siècle, on a affaire à une présence, omniprésence, je dirais, de la science dans tous les domaines.
Et par la suite, comment caractérisez-vous, après le 19e siècle, alors, que se passe-t-il sur ce fauteuil ?
Par certains côtés, on a les mêmes attitudes, c'est-à-dire le 18e occupant, qui est mon prédécesseur immédiat, Lévi-Strauss, s'apparente à ce 19e siècle. Parce que sa grande ambition était de faire des sciences humaines de véritables sciences. Il l'a tout au long de sa vie, de sa carrière, il a toujours répété. Il disait l'appellation de science pour les sciences humaines est aujourd'hui usurpée. Il faut faire en sorte qu'elle soit parfaitement légitime. Et c'était le combat de sa vie. Et on ne le sait pas toujours parce qu'il écrivait superbement. Par exemple, Triste Tropique, et les gens s'attachaient à son style. Il avait des idées qui ont eu beaucoup d'influence comme dans Racisme et Histoire, etc. Et donc, Race et Histoire. Et donc, on a un peu oublié ce qui, pour lui, était l'essentiel, c'est la science. C'est de donner leur lettre de noblesse scientifique aux sciences humaines.
C'était Lévi-Strauss, mais enfin, juste avant, c'est Montherlant, c'est quand même pas tout à fait...
Montherlant, c'est autre chose. Montherlant, il est à part. Je ne trouverai pas dans la liste des prédécesseurs quelqu'un qui ait le même profil que Montherlant, mais bien entendu, Montherlant était un grand écrivain, même si on le lit un peu moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais je trouve que c'est une chance pour ce 29e fauteuil d'avoir eu aussi de grands écrivains comme Montherlant. C'était un personnage étrange qui avait une fascination pour la Rome antique. Mauriac disait qu'il jouait aux Romains, mais indépendamment de ça, c'est vrai qu'il avait...
Mauriac était méchant.
Oui, il avait une fascination pour Rome depuis l'enfance, depuis qu'il a lu Covadis. Il le dit d'ailleurs, il n'est jamais sorti de cet univers-là jusqu'à la fin de sa vie. Il avait également une fascination pour les cycles du soleil. Il a passé sa vie à parler d'équinoxe, de solstice, il y a plusieurs de ses livres qui portent ce titre. Et il a fini par mourir à quelques pas de là, suicidé, le jour du solstice d'automne.
Comme un Romain.
Comme un Romain, oui. Et c'est ce qu'il avait toujours voulu faire.
Lorsque vous avez remonté cette sorte de généalogie. On sait que vous aimez les généalogies quand même. Hein, parce que
c'est Lévi-Strauss qui parle au moment de sa réception à l'Académie. Il a dit à chaque nouveau membre, vous donnez une généalogie fictive. Et c'est vrai. Je pense qu'il y a une forme de généalogie qui sur chacun des fauteuils. Et même si elle est formée par le hasard des élections, mais elle a un sens. Et en tout cas, elle permet un regard sur l'histoire de ces quatre siècles et aussi, bien entendu, sur l'histoire de l'Académie.
C'est vrai qu'on ne choisit pas ses prédécesseurs sur le fauteuil, mais après tout, on ne choisit pas sa famille non plus. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et je peux dire que pour moi, j'ai été bien loti. Bon, j'étais heureux et fier et honoré de succéder à Lévi-Strauss. Et en regardant la liste de ceux qui l'ont précédé, je trouve qu'il y a parmi eux des gens qui méritent certainement d'être connus et qu'on se rappelle parfois leurs œuvres. Et en tout cas, je les ai regardées avec bienveillance, comme vous l'avez dit, comme j'aurais regardé mes ancêtres si j'avais décidé d'en parler.
C'est ce qui fait tout le sel et tout le charme de l'ouvrage, au-delà de son érudition incroyable, parce que ça a dû être un travail titanesque de rassembler tant d'informations sur ces hommes. Merci beaucoup, Amine Malouf. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs qui souhaitent se replonger dans cette histoire du 29e fauteuil, qui est aussi une histoire de France et de l'Académie et des grands mouvements intellectuels qui ont balayé quatre siècles, de se référer à votre ouvrage. Merci beaucoup encore.
Merci à vous. Thank you.